Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est un dirigeant qui inquiète désormais la communauté internationale et notamment l'Occident. Un dirigeant qui intrigue également. Comment se fait-il que Recep Tayyip Erdogan, que cet ancien maire d'Istanbul, devenu Premier ministre puis Président de la République, parviennent depuis 13 ans à se maintenir au pouvoir, remportant toutes les élections, triomphant de toutes les épreuves. La tentative du coup d'État du 15 juillet ne fait pas exception. Le chef de l'État turc a non seulement survécu de façon spectaculaire, mais il semble une fois de plus renforcé dans ses pouvoirs. Sa courbe de popularité n'a jamais été aussi élevée. Anne Andlauer.
La nuit du 15 au 16 juillet, à l'heure où des putschistes bombardaient le Parlement turc, Nermin Timuçin se dressait face au tank à l'aéroport d'Istanbul. Cette mère au foyer obéissait ainsi à l'appel télévisé du chef de l'État, qui demandait à descendre dans la rue pour le soutenir. Les putschistes ont échoué, parce qu'ils n'ont pas eu le soutien du commandement de l'armée, parce qu'eux-mêmes étaient divisés, parce que des dizaines de milliers de Turcs, comme Nermin Timuçin, ont refusé de les laisser faire. Mais pour cette grande admiratrice de Tayyip Erdogan, le président est leur sauveur.
C'est notre leader, c'est lui qui a mené la résistance cette nuit-là. S'il n'était pas resté inflexible face aux putschistes, peut-être qu'ils auraient réussi. Je suis tellement fière.
Depuis la nuit du coup manqué, Recep Tayyip Erdogan accuse un vieux prédicateur exilé aux États-Unis, Fethullah Gulen, et ses nombreux fidèles dans l'appareil d'État. Pendant près de 10 ans, le même Tayyip Erdogan s'est pourtant appuyé sur ses réseaux gulenistes, leur offrant une présence et une influence inédites. Le président l'a reconnu, a dit avoir été trompé et s'en est excusé. Tout comme, il y a un an, il affirmait de la même manière avoir été trompé par le PKK kurde, relançant une guerre sanglante après 3 ans de cessez-le-feu. Malgré tous ces mea culpa, sa base électorale ne semble pas lui en vouloir. Le politologue Ahmet İnsel donne une première explication.
La base électorale ne perçoit pas ça comme des échecs. Il considère plutôt que Tayyip Erdogan est de bonne volonté et c'est les autres qui sont responsables, qui sont menteurs, etc. Tayyip Erdogan les rassure d'une certaine manière pour sa base électorale. S'il a fait des erreurs, il le corrige très rapidement contre le PKK. Il n'hésite pas du coup à aller très violemment contre. Pour les gulenistes, il reconnaît qu'il a fait une erreur, qu'il demande pardon, et puis après, il ne va pas avec le dos de la cuillère, etc. Et du coup, c'est un chef.
Ces 3 dernières années, Recep Tayyip Erdogan a subi une série d'épreuves qui auraient pu le faire tomber. La révolte du parc Gezi à l'été 2013, un scandale de corruption attribué aux gulenistes, une campagne d'attentat du PKK et de Daesh, et cette tentative de putsch. Mais dans l'esprit de ses électeurs, le président est avant tout le leader qui, depuis 2003, a profondément modifié le visage de son pays. Celui qui a donné une voix et des droits aux classes conservatrices. Ahmet İnsel.
Pour la très grande majorité des électeurs d'Erdogan, si Erdogan tombe, ils considèrent qu'ils vont perdre une partie importante des acquis en matière de reconnaissance culturelle, et par exemple la question du foulard, bien que je pense que ce soit irréversible. Néanmoins, cette peur existe.
La peur de perdre aussi les gains socio-économiques de 13 années de pouvoir, marqués par une croissance jamais vue en Turquie, boostée par la consommation et le secteur de la construction. Cette image de bon gestionnaire vaut au chef de l'État des voix supplémentaires au-delà de sa base électorale, notamment chez les partisans des ultranationalistes du MHP. La sociologue Sevin Stohan enquête depuis des années auprès des électeurs de Tayyip Erdogan. Elle se souvient d'une anecdote recueillie l'été dernier, après les législatives de juin. Le parti d'Erdogan, l'AKP, venait de perdre sa majorité absolue, qu'il a regagnée 5 mois plus tard, lors d'élections anticipées.
Un promoteur immobilier, électeur du MHP, m'a fait cet aveu. En juin, nous n'avons pas voté AKP et nous nous sommes tirés une balle dans le pied. Les chantiers sont à l'arrêt. C'est l'incertitude totale. Si Erdogan perd, ce sera l'ère des coalitions, c'est-à-dire l'instabilité et la crise économique. Voilà ce qu'il m'a dit à l'époque et voilà pourquoi de nombreux électeurs du MHP ont voté pour lui en novembre 2015. Ils n'ont pas voté AKP, ils ont voté Erdogan et son leadership.
Selon un sondage de l'Institut Métropole réalisé fin juillet, 68% des Turcs interrogés disent approuver leur président. Bien plus que les 52% qu'il avait élu il y a 2 ans à la tête de l'État. Sebahattin, un garagiste, fait partie de ces Turcs qui, sans être des inconditionnels du président, continuent de voter pour lui.
Je ne dis pas qu'il est irremplaçable. Si quelqu'un d'autre émergeait et que je le trouvais meilleur, je voterais pour lui. Ces dernières années, je vois bien que tout n'est pas net autour d'Erdogan, même si on nous présente chaque épreuve comme un complot. Mais il n'y a personne à part lui, personne d'autre en qui je puisse avoir confiance.
Des propos qui n'étonnent pas le politologue Ahmet İnsel.
Si Tayyip Erdogan reçoit à peu près 50% des voix des électeurs, en face de lui, il n'y a personne qui reçoit 50% des voix des électeurs. Nous ne sommes pas dans un régime bipartite et donc pour une partie importante des électeurs, classe moyenne, conservatrice, la stabilité politique est autrement plus importante que toute autre considération.
Erdogan, plus fort que jamais, la sociologue Sevinç Doğan tient à nuancer.
Depuis le putsch manqué, nous avons affaire à un Erdogan plus modéré. Il n'a rien dit de clivant depuis le 15 juillet. Même la presse proche du gouvernement utilise un langage modéré et consensuel. Alors peut-on vraiment dire qu'Erdogan est renforcé? J'ai plutôt l'impression qu'il a été bridé.
Reste à savoir si le président parviendra à maintenir ce discours rassembleur. Lui qui joue depuis des années sur les grandes divisions qui traversent la société turque.
Autre chef d'État à la longévité exceptionnelle, il est au pouvoir depuis 22 ans, il a férocement réprimé toute opposition. Je veux parler du président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, souvent qualifié de dernier dictateur de l'Europe. Des élections législatives sont organisées dimanche dans ce pays coincé entre la Russie à l'est, l'Ukraine au sud et les Pays-Baltes au nord. Le chef de l'État a appelé à des élections transparentes, un appel plutôt cynique selon ses opposants. Pourtant, ce scrutin pourrait marquer un tournant, comme nous l'explique notre correspondant dans la région, Marielle Vitureau.
Aujourd'hui, plus que jamais, la Biélorussie est tiraillée entre la Russie et le bloc occidental. Moscou distille ses approvisionnements en gaz, un de ses moyens de pression préférés, tandis que l'Union européenne et l'Ouest font les yeux doux à Minsk, notamment depuis la libération de nombreux prisonniers politiques au mois d'août 2015. La Banque européenne d'investissement vient tout juste d'approuver une nouvelle stratégie pour la Biélorussie. Et le tout a pour toile de fond une crise économique qui perdure et une situation sécuritaire inquiétante, notamment en raison du conflit en Ukraine. C'est dans ce contexte que les Biélorusses iront voter dimanche. Pour ces législatives, l'indéboulonnable président Loukachenko a daigné faire quelques concessions, notamment sur la composition de certaines commissions électorales, mais rien de plus. Les indépendants représentent tout juste 40% des candidats et certains grands noms comme Ales Lavinets du Mouvement pour la Liberté ont vu leur candidature rejetée. Pour ces législatives, ils se sont emparés des sujets socio-économique, la coalition indépendante pour la vérité a demandé une réforme du système des retraites, pointé du doigt le sous-développement des régions ou le prix élevé du parc immobilier. Les élections marqueront-elles un tournant? La grande majorité est sceptique. Pourtant, comme le relève la Konrad Adenauer Stiftung, les Européens sont prêts à des concessions au nom de la sécurité dans la région, le pouvoir à Minsk aussi, mais pour des raisons très terre-à-terre, la situation économique et financière du pays est mauvaise. Dans la capitale biélorusse, on cherche plus la stabilisation de la situation que son évolution. Quant à l'opposition, elle a encore le plus mauvais rôle entre le marteau et l'enclume.
Dans un autre pays réputé conservateur et homophobe, les choses évoluent. En Serbie, une militante lesbienne est entrée au gouvernement. Ana Brnabić a été nommée ministre de l'administration d'État, un portefeuille clé, alors que la Serbie s'est engagée à poursuivre des réformes structurelles douloureuses et impopulaires. Philippe Bertinchand nous appelle de Belgrade.
Une femme ouvertement lesbienne au gouvernement, dans les Balkans réputés machos, la nouvelle a de quoi surprendre. Le 8 août dernier, en Serbie, tous les projecteurs se sont braqués sur un nouveau visage, celui d'Ana Brnabić, 40 ans, désignée ministre de l'administration d'État et de l'autonomie locale du nouveau cabinet du Premier ministre Aleksandar Vučić. Un geste d'ouverture aussitôt applaudi par les organisations LGBT qui y ont vu un moment historique en Serbie. Il faut dire que cette nomination n'a rien d'évident dans ce pays où 80% de la population se déclare chrétien orthodoxe, où l'homosexualité est encore souvent assimilée à une maladie importée de l'Occident et où des élus se distinguent toujours par des propos homophobes et misogynes. L'an dernier, la marche des fiertés LGBT à Belgrade a eu lieu sous haute protection policière. La Gay Pride 2010 a fait plus de 150 blessés, dont une majorité de policiers. Celles des trois années suivantes ont toutes été annulées à la dernière minute suite aux menaces de groupuscules fascistes bénis par le tout-puissant clergé orthodoxe pour qui cette marche est une parade tragicomique de la honte. Anna Brnabich a étudié l'administration publique aux États-Unis et en Angleterre. Au début des années 2000, au sortir des guerres yougoslaves, elle s'active dans le secteur des ONG de développement local. On la retrouve ensuite à la tête d'une compagnie de parcs éoliens dont elle démissionne en 2015 avant d'être promue présidente du conseil d'administration de l'Alliance nationale pour le développement économique local. Elle devra à présent mettre en œuvre des réformes impopulaires exigées par le FMI auxquelles elle-même s'était jusque-là opposée. La tâche qui l'attend sera lourde, a d'ores et déjà prévenu le Premier ministre.
Et nous partons au Royaume-Uni où être musicien de rue n'est pas synonyme de course-poursuite avec les forces de l'ordre qui vous chassent du trottoir ou du métro. À Londres notamment, le busking, comme on l'appelle outre-Manche, est un véritable métier. Les buskers sont des centaines à jouer dans la rue, dans les métros, dans des espaces désignés. Dans une ville où les salles de concert qui produisent les jeunes artistes ferment par dizaines chaque année, les couloirs des métros et les trottoirs se sont donc transformés en véritable tremplin musical. Et c'est le reportage de Marie Billon.
La situation n'a pas l'air idéale. Dans les couloirs du métro, Luca Fiore joue de la guitare et chante. Pourtant, ce jeune Italien de 24 ans a de la chance. Il a gagné un concours de la mairie de Londres qui lui donne un accès illimité pour une année aux plateformes de buskers.
C'est complètement autre chose qu'être sur scène. On est vraiment seul face à son audience, il n'y a pas de tralala. C'est plus compliqué aussi parce qu'il faut attirer l'attention des gens, alors qu'ils ne font que passer et qu'ils ne sont pas là pour m'écouter.
Depuis près d'un an qu'il busque dans le métro, Lucas a aussi appris à repérer les meilleures stations.
À Piccadilly Circus, par exemple, l'endroit prévu pour qu'on joue est pile en face des escalators. Donc les gens ont le temps de nous écouter en descendant. À King's Cross, on a plus de place, on est sur les quais. Là où les gens attendent leur train, donc ils ont le temps. Je me souviens même d'une fois où un couple s'est mis à danser, tandis que je jouais une balade. En fait, les gens nous écoutent. J'ai même vu certains revenir pour dire merci ou donner plus d'argent. Ça ne se voit pas toujours, mais d'une manière ou d'une autre, on les touche.
Lucas ne se perce pas de douces illusions. Certains ignorent les buskers, mais beaucoup apprécient cet intrus musical dans leur quotidien.
J'aime beaucoup ça. C'est sympa de juste marcher et d'avoir un spectacle qui se déroule à côté. Si j'aime vraiment la musique, je m'arrête et j'écoute, si je ne suis pas pressée, bien sûr. C'est quand même bien de pouvoir voir des musiciens sans aller à des concerts, sans devoir faire la queue. Les artistes sont là pour nous.
Craig est le rédacteur en chef de Padlock, un magazine masculin d'art de vivre. Pour lui, les buskers font partie des petits plaisirs qui améliorent le quotidien.
Tout le monde est tellement en train de courir partout, c'est génial d'être surpris par de la musique jouée au bout d'un tunnel dans le métro. Ça entretient le concept de la musique live, et la musique est faite pour être jouée en live. Aujourd'hui, on a accès à tout par Internet. C'est bien que des gens nous rappellent ce qu'est vraiment la musique. Et puis c'est cru, il n'y a pas d'arrangement, pas d'effet. C'est juste un musicien et son instrument, juste de la bonne musique.
Pour jouer dans le métro, les buskers doivent obtenir la permission. Mais dans les rues de la capitale, tous les musiciens sont les bienvenus. Lucas est notamment venu pour ça à Londres.
Je suis ici pour devenir musicien professionnel. Je ne pouvais pas jouer autant dans ma petite ville natale en Italie. Busker, ça m'a beaucoup aidé à me faire connaître, à tester mes limites, m'améliorer. Le plus gros coup de pouce, c'était les compétitions auxquelles j'ai participé. Surtout celle que j'ai gagnée pour jouer dans le métro. Ça a braqué les projecteurs sur moi, ça m'a ouvert des horizons, permis de bouger, de rencontrer des gens qui m'ont proposé de faire des scènes. C'est très utile pour commencer à se faire un nom.
Car Busquet est pris au sérieux par la profession musicale, Gennaro Castaldo est l'un des porte-parole de l'industrie phonographique britannique, l'autorité en termes de musique au Royaume-Uni.
On voit souvent des jeunes qui sont au conservatoire, des jeunes violonistes par exemple, qui vont dans la rue pour essayer leur musique. C'est une très bonne expérience pour les jeunes talents, pour renforcer leur confiance, développer leur talent scénique, avant de se lancer pour de bon. Et puis ça permet de gagner de l'argent, de bien gagner leur vie pour certains même, surtout dans le centre de Londres.
Lucas vit de sa musique. Selon les mois, c'est le busking qui lui rapporte le plus. D'autres, ce sont les concerts ou les petites tournées qu'il fait. En tout cas, selon Gennaro, c'est un service mutuel que Londres et les musiciens se rendent.
Le busking, c'est dans notre culture au Royaume-Uni en général et dans la capitale en particulier. Parfois, je trouve ça presque un peu trop. Quand je vois des groupes entiers qui se produisent sur Oxford Circus, une place qui n'est pas si grande que ça et où il y a toujours plein de monde. Les gens forment une foule en s'arrêtant pour écouter. Je trouve ça dangereux, mais les autorités sont très relaxes. C'est parce que ça contribue à faire de Londres une ville dynamique et excitante.
Le maire de la capitale, Sadiq Khan, soutient ouvertement le busking. Il a intégré dans sa nouvelle campagne « London is open », « Londres est une ville ouverte », lancé pour contrecarrer l'impression de volonté d'isolement qu'a généré le vote pour le Brexit.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
Vous l'avez deviné, on va encore parler de musique et eux ne sont plus dans la rue depuis longtemps. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors on ne les avait pas entendus depuis longtemps, The Divine Comedy qui sort un nouvel album.
On salue aujourd'hui le retour d'un vétéran de la pop moderne, l'Irlandais Neil Annon, qui enchante nos discothèques depuis près de 25 ans sous le nom de Divine Comedy, avec des chansons toujours généreusement orchestrées, portées par un goût du romanesque et une écriture rarement prise en défaut. La sortie en cette fin d'été de Foreverland, le 11e album de Divine Comedy, marque la fin de 6 années d'absence discographique. 6 années pendant lesquelles Neil Annon a donné beaucoup de concerts, mais s'est aussi concentré sur d'autres projets musicaux et personnels aussi, notamment l'acquisition d'une grande propriété dans la campagne irlandaise, un vieux fantasme de paradis terrestre qui lui a inspiré la chanson Foreverland, qui donne son nom à ce nouvel album.
Me, my plan to find forever land. There's a tropical.
Et on se quitte avec un avant-goût du paradis terrestre Foreverland de The Divine Comedy. Merci à Jérémy Besset qui était à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos. It's all lies until they can see.